Content de revoir certaines têtes.
Hugo, tu peux faire comme tu veux, tu descends ou tu restes. Manois aussi.
Je vous invite, pour ceux qui veulent lire, à préparer vos Bibles dans la première lettre de Paul aux Corinthiens. On va continuer la lecture suivie. Donc on avait fait les versets 1 à 3 la semaine dernière. On va faire les versets 4 à 9 aujourd'hui. Je vous encourage à mettre vos téléphones sur silencieux. Mais on est dans la grâce. Nous sommes toutes et tous des êtres humains, n'est-ce pas? Et donc, ici se rassemblent des futurs vieux ou des anciens jeunes. Nous avons tous une histoire derrière nous et des aventures devant nous. Et nous avons en commun d'être présents ici ce matin, dans le temple, avec en bonus ceux qui sont sur Zoom, qu'on salue. Pour le dire autrement, nous venons tous de quelque part. Nous avons des origines, des racines, un passé. Pour les philosophes, cette question répond à... s'appelle « D'où est-ce que je viens ?» Et si nous venons de quelque part, nous avons tous aussi un futur devant nous, une histoire. Elle sera plus ou moins longue, selon notre âge. Où finira cette aventure ? Où nous conduira-t-elle ? C'est la question philosophique. Où est-ce que je vais ? Et si je sais d'où je viens et où est-ce que je vais, reste à savoir aujourd'hui comment est-ce que je vis maintenant, ici. Qui suis-je ? D'où est-ce que je viens, où est-ce que je vais et qui suis-je aujourd'hui ? Ce sont trois grandes questions que les humains se posent consciemment ou inconsciemment dans leur vie pour savoir comment marcher ici-bas parmi les autres. Mes enfants aiment bien demander des questions, poser des questions à propos de nos ancêtres, nos origines. Pourquoi est-ce que maman s'appelle Luigi, d'où ça se vient ? Est-ce que ça a un lien avec Mario ou est-ce que c'est un lien avec les Pattes, l'Italie et Calvo, d'où ça vient ce nom de famille ? Ils aiment entendre les histoires de famille, les anecdotes à propos de grands-parents ou d'arrière-grands-parents qu'ils ne connaîtront pas. Des récits d'enfance, de lorsque leurs parents étaient petits. Ils sont fiers parfois d'avoir des ancêtres d'ici ou de là. Ils sont curieux de connaître qui, dans leur histoire passée, a connu la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, a fui tel régime autoritaire. Toutes ces informations les fortifient, les inscrivent dans le monde. C'est comme s'ils réalisaient qu'ils ont des racines qui remontent à loin. Et les bonnes racines sont comme celles d'un arbre qui les rend résistants aux tempêtes et aux orages. Mais tout le monde ne peut pas avoir accès à ce passé, ou tout le monde ne peut pas être fier ou heureux de son passé. Après les racines, il y a l'avenir aussi, une chose importante qui fortifie. Y a-t-il une place qui m'attend devant moi ? Est-ce que je trouverai un travail après mes études ? Si je quitte cet emploi, est-ce qu'un autre m'attendra ? Est-ce que dans le futur, j'aurai quelqu'un à mes côtés pour vivre et vieillir avec moi ? Est-ce que je vais trouver un endroit, une ville, un quartier où je vais appartenir, dans lequel je vais trouver ma place ? Pour certains, notre avenir est tout tracé. Pour les moins jeunes d'entre nous, il y a peut-être moins de questions à se poser parce que l'avenir peut-être nous paraît plus court. Pour les plus jeunes, pour ceux qui viennent d'arriver en France, l'avenir est rempli d'incertitudes. Parmi toutes ces incertitudes, s'il était possible d'avoir l'assurance, la confiance d'arriver quelque part, d'avoir un lieu prêt pour nous. C'est pour ça que souvent, on s'encourage mutuellement à acheter un bien immobilier, à avoir un pied-à-terre, ne serait-ce que pour la retraite. Avoir des racines, donc, fortes, une famille large, unie, appartenir à un groupe, nous aide à faire face à ces incertitudes de l'avenir. Un enfant, un jeune, qui se sent aimé par une grande famille, avance avec plus de confiance, peut-être, dans le futur, car Il croit qu'on lui viendra en aide, à son secours, s'il tombe. Mais nous ne vivons pas tous avec ces assurances, avec ces sécurités autour de nous. On ne peut pas s'inclure soi-même à une famille qui n'est pas la nôtre. On doit être reçu, accueilli, invité. C'est comme ça que ça va au collège, au lycée, dans les églises aussi, ou dans une ville nouvelle où vous déménageriez. Vous aspirez à être accueilli, à être inclus, intégré, à pouvoir vous planter. Lorsque cet enjeu de l'avenir est assuré et que nos racines sont fortes, on peut vivre le présent plus facilement, plus sereinement. Plus l'on sait d'où l'on vient et où l'on va, plus on peut se diriger. Alors que quand on ne sait pas ces choses, où aller alors? Comme on dit, à celui qui va nulle part, aucun vent n'est favorable. Ces choses peuvent être vraies pour des individus, pour des communautés, pour des peuples, des nations. Un peuple qui n'a plus d'histoire ne trouve pas souvent son futur et peut être ballotté au gré de puissants, de leaders, charismatiques ou despotiques. Si je vous parle de toutes ces choses, c'est parce que Paul, dans les quelques versets qu'on va lire, pose ces trois grandes questions de la vie. Il en parle tout du moins à ses Corinthiens, d'où ils viennent, où ils vont aller et où sont-ils aujourd'hui. Alors je vous invite à lire ce texte avec ces idées en tête. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 4 à 9. Je remercie sans cesse mon Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a accordée par votre union à Jésus-Christ. En effet, unis au Christ, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier celles de la parole et de la connaissance. Le témoignage rendu au Christ a été si fermement établi parmi vous qu'il ne vous manque aucun don de la grâce. À vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ se révélera. C'est lui qui vous maintiendra ferme jusqu'au bout pour qu'on ne puisse vous accuser d'aucune faute au jour de sa venue. Dieu lui-même vous a appelé à vivre dans l'union avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, et il est fidèle à ses promesses. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Quelques mots à propos de ce texte. D'abord, on n'a pas forcément accès à ça dans nos traductions modernes, mais ces quelques versets, c'est deux phrases. Juste deux phrases. Une phrase très longue, très très longue, où Paul dit « Je rends grâce à Dieu à cause de la grâce donnée en Christ, parce que vous avez été enrichis selon le témoignage de Christ qui a été affermi parmi vous, de sorte que vous ne manquez d'aucun don en attendant la révélation du Christ qui, lui, vous affermira jusqu'à la fin, afin que vous soyez irréprochables. » C'est une phrase. Avec plein de propositions subordonnées. Et la deuxième phrase, « Dieu est fidèle et c'est lui qui vous a appelé à cela, à cette communion avec Christ. » Donc d'une traite, Paul dit « Merci ». Il dit « Merci à Dieu pour la grâce qu'il a donnée, etc. etc. » Et la deuxième phrase, « Merci à Dieu », c'est simplement « Dieu est fidèle ». Deux grandes idées, « Merci Dieu pour tout ce que tu donnes et Dieu tu es fidèle ». En passant un peu vite par-dessus ce texte, on pourrait croire que Paul est en train de faire l'éloge de la foi des Corinthiens. Ah oui, ils sont unis à Christ, ce qui est top. Que le témoignage de Jésus est bien compris chez eux, c'est très très bien. Ils ont plein de dons spirituels, notamment la parole et la connaissance, c'est super. Ils attendent le retour du Christ, ah, c'est comme ça qu'il faut vivre. Ils sont irréprochables et fermes, à ce moment-là, formidable. Qu'est-ce qu'ils sont bien ces Corinthiens? Mais à mieux relire le texte, on voit que Paul ne voit pas les choses comme ça. Pourquoi les Corinthiens sont-ils unis à Christ? Pourquoi sont-ils riches? Pourquoi le témoignage de Christ a-t-il été bien établi chez eux? Pourquoi resteront-ils fermes et irréprochables jusqu'au retour de Jésus? Ils sont riches parce qu'ils ont été unis à Jésus.
comme une personne épouserait quelqu'un de riche et se retrouverait riche tout à coup, par cette union à l'autre. Paul et Apollos sont ceux qui ont apporté le témoignage correctement et l'ont bien fondé dans cette Église. Et s'ils resteront fermes et irréprochables jusqu'au retour de Jésus, c'est parce que le Seigneur lui-même veillera à cela. Donc tout vient de Christ, par Christ et pour Christ. Pour ça que la deuxième phrase de notre lecture, Dieu est fidèle, c'est lui qui vous a appelé et il vous gardera, résume bien tout. Bref, les Corinthiens n'ont rien fait du début à la fin de ce passage. Leur union, leur enrichissement, leur don, leur persévérance, tout cela est le choix de Dieu, l'œuvre du Christ. Autre chose remarquable sur ce texte qu'on peut voir, c'est une certaine progression dans le temps. Vous avez été unis à Christ. Ça, c'est au passé. Vous êtes comblés de dons. Ça, c'est aujourd'hui. Et vous allez persévérer jusqu'au retour du Christ. Ça, c'est le futur. Et Dieu est fidèle, ça c'est pour toujours. Passé, présent et futur. Qu'est-ce que Paul cherche à travers ça? Rapidement. On a déjà évoqué que dans l'église de Corinthe, il y a beaucoup de disputes, beaucoup de querelles, beaucoup de soucis d'orgueil. C'est moi le meilleur, c'est moi qui ai raison, je suis plus que toi, de toute façon, moi je sais que. Paul écrit dans cette introduction de lettre, toutes ces belles choses qu'il a vues en eux, tout en rappelant qu'elles ne viennent pas de eux. Oui, tu comprends l'évangile, mais c'est pas ta faute. C'est pas grâce à toi. Pas plus que je peux aimer avoir des cheveux bouclés, je peux être fier de mes cheveux bouclés, mais si j'en tire orgueil, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter d'avoir des cheveux pareils ? Peut-être fier et aimer avoir les yeux bleus, mais c'est une grâce. Si je me sens supérieur aux autres à cause de cela, je n'ai rien compris et j'ai pas mal d'eau tiède entre les oreilles. De la même façon, Paul rappelle aux Corinthiens que leur union à Jésus est un cadeau, un privilège, une grâce avec laquelle viennent pleines de richesses, mais que ça ne les rend pas supérieurs aux autres, car c'est là l'œuvre de Dieu. On peut tâcher de nous en rappeler, nous aussi. Mais la deuxième chose que j'ai envie que vous gardiez à cœur, surtout, si Dieu vous a unis à Christ, parce que l'Église est la fiancée de Jésus, donc si vous êtes dans l'Église, vous êtes unis à Christ, alors Dieu vous enracine dans un passé, Dieu vous donne un avenir et vous enrichit aujourd'hui dans le présent. D'où est-ce que je viens ? Votre passé, vous le connaissez peut-être bien. Peut-être vous savez raconter de longues histoires sur vos origines. Peut-être vous avez de fiers ancêtres cévenols, des camisards qui ont lutté contre les dragons du roi. Peut-être vos ancêtres viennent d'ailleurs, d'Afrique, d'Algérie, d'Espagne, du nord de la France. Mais en Christ, vos origines changent totalement. Vous êtes désormais relié à Dieu. Votre Père céleste, c'est le Créateur du ciel et de la terre. Votre frère, c'est celui qui siège sur le trône du cosmos. Votre histoire, c'est aussi celle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est aussi celle du roi David, de Salomon, d'Élie, de celle des 12 apôtres. Vos racines ont été plantées dans l'histoire du salut du monde entier. Que vous veniez de la République démocratique du Congo, de Haïti, de Madagascar, de la Réunion, de Chine, de Belgique, d'Espagne, d'Algérie, de Bretagne. Vous êtes membre du peuple de Dieu qui a traversé l'histoire humaine depuis Seth, le fils d'Adam et Ève, jusqu'à présent.
Paul dit que si vous avez la foi d'Abraham, alors Abraham est votre ancêtre. Vous n'êtes pas personne, vous êtes tous sauf insignifiant, vous n'êtes pas négligeable, vos racines sont profondes, anciennes, riches, fortes. Vous pouvez être fier et heureux de cet héritage qui remonte à l'origine de notre histoire. Et ce n'est pas tout. Puisque si vous êtes unis à Christ, que vos origines sont unies à Dieu lui-même, sachez aussi que vous avez un avenir. Je ne connais pas tout votre futur. Il y a beaucoup d'inconnus, d'incertitudes qui demeurent. Mais il y a quelqu'un qui vous attend, une place qui vous est préparée, un avenir, une partie de votre avenir qui est certaine. Car Dieu vous a appelé à être uni à Christ, et ce Dieu-là qui vous a appelé est fidèle. Ça veut dire quoi ? Il ne fera pas la moitié du travail. Il n'a pas commencé tout cela pour ne pas le mener à terme. Et s'il vous a uni à Christ par son esprit, il vous gardera jusqu'à la fin fermement, car il est fidèle. Alors, le futur de Jésus, c'est aussi le vôtre. Jésus a dit à ses disciples, « Je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Un jour, nous le croyons, Jésus reviendra pour juger le monde. David nous l'a rappelé dans le Credo. En jugeant le monde, il va mettre fin à l'histoire des humains et ouvrir un nouvel âge où son règne sera établi sur terre pour toujours. C'est ce qui vous est réservé. C'est là que se trouvera votre place. Jésus, qui vous attend de tout son cœur, dans son règne qui n'aura pas de fin. Vous savez d'où vous venez ? D'une longue lignée d'hommes et de femmes qui ont appris à marcher par la foi, qui sont tombés des milliers de fois, qui ont reçu la grâce autant de milliers de fois. Vous faites partie d'une lignée de prophètes qui ont parlé de Dieu aux humains et qui souvent le payèrent de leur vie. Vous faites partie d'une lignée de témoins qui ont compris que les richesses de ce monde et les gloires humaines ne valent rien lorsqu'on sait quelle sera la richesse de la vie au retour du Christ. Et cela, cette vie éternelle, c'est là où vous allez être emmené et conduit par votre fidèle berger. Alors aujourd'hui, croyez. Croyez ce que vous avez reçu de Dieu. Vous avez reçu tout ce qu'il vous faut pour aujourd'hui. Croyez qu'il va pourvoir pour demain à ce dont vous avez besoin, que ce soit matériel ou spirituel. Je ne dis pas que ce sera facile. Je ne dis pas que ce sera l'abondance. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'épreuve. Je dis que vous allez traverser tout cela jusqu'au jour de votre mort. Jusqu'au jour du retour du Seigneur, l'un ou l'autre. Et que d'ici là, votre âme sera gardée. Je ne peux rien promettre pour votre corps. Je ne peux rien promettre pour vos proches. Mais votre âme traversera et restera attaché au Seigneur. Vous êtes riche en Christ, riche de ressources de grâce illimitées qui sont en vous, des ressources de grâce illimitées en vous. Combien de fois pouvez-vous aller demander pardon à Dieu pour une chose dont vous n'arrivez pas à vous défaire ? Autant que nécessaire. Combien de fois le Seigneur viendra à vous pour vous relever même de la boue dans laquelle vous retombez, autant de fois que nécessaire. Christ a déposé en vous des réserves de grâce sans limite. De sorte que, au jour du Seigneur, vous serez présentés irréprochables devant Dieu. Mais des ressources aussi de patience, de miséricorde, de sagesse, de bonté, de foi, d'espérance, de courage, d'amour, sont également déposées avec Christ dans vos cœurs. Non pas pour vous uniquement, mais pour que vous puissiez dedans pour les autres, que vous deveniez semblable à Christ, doux et humble de cœur. Nous ne savons pas bien comment puiser en lui. Nous peinons à croire que nous sommes en lui et que lui est en nous. Souvent, on se trompe de source. On puise dans nos propres forces. Comment est-ce que je m'appuie sur Christ pour, là, ne pas céder à la colère ? Comment est-ce que je puise en Christ, ici, pour me reprendre et ne pas flatter mon orgueil, mais rester humble ? Comment est-ce que je puise en Christ pour choisir, non pas l'égoïsme, mais la générosité ? Jésus vit en moi. Le ressuscité vit en moi. Il se connecte à moi. Au moment de l'épreuve, au moment de la tentation, et vous savez comme moi que nous sommes tentés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous connaissons des moments de vie où on doit faire un choix entre aller à droite ou aller à gauche. J'en discutais au groupe de maison. Savez-vous pourquoi au Moyen-Âge on mettait partout des calvaires, des croix avec le Christ au carrefour? Parce que le carrefour, c'est le lieu du choix. C'est le lieu du choix. Et dans votre vie quotidienne, il y a des tas de moments où vous êtes amené à faire un choix. Et là, il nous faut, quand c'est difficile, quand on est tenté, quand on a du mal à vouloir ressembler au Christ, quand notre colère, quand nos blessures nous poussent à peut-être user des armes de l'ennemi, de la violence, de la colère, de l'intimidation, de la menace, du chantage, de l'humiliation, de l'égoïsme, de la lâcheté, d'aller puiser en moi. Seigneur, tu vis en moi. Je veux te refléter. Prête-moi ta force, ta patience, ta sagesse. Tu les as déposées en moi. Tu vis en moi. Et c'est par toi que je veux vivre. C'est une relation mystique, spirituelle, un lien intérieur, une démarche de foi animée par un désir, une envie de lui ressembler, de lui être fidèle, de lui obéir, d'être une source de bénédiction autour de moi. Alors si je suis abattu, découragé, si j'ai une mauvaise image de moi, si j'ai l'impression que je ne vaux rien à côté des autres qui savent, des autres qui font, qui ont beaucoup plus, souviens-toi d'où tu viens. D'où tu viens en Christ. Ton pédigré est lourd. Souviens-toi où tu vas aller en Christ. La vie éternelle et la gloire. Souviens-toi aussi que tout cela est grâce. Et si tu peux en être fier, cela ne te rend pas meilleur que les autres. Si tu te sens dans la colère, dans la jalousie, si tu veux te venger, si tu veux faire payer à l'autre, ou fuir tes responsabilités, te débiner, ne pas te comporter en adulte mature, souviens-toi qu'il y a des trésors que Christ a déposés en abondance en toi. Tourne-toi vers lui en esprit, rentre dans ton cœur. Regarde-le. Apprends à lui prendre ce dont tu as besoin maintenant pour pardonner, pour rester maître de ton cœur, pour rester juste, pour rester doux, humble, lui ressembler et lui obéir. Car tout ce que je suis est en lui et lui, il est en moi. Je suis uni à Christ. Je suis uni à vous tous. Nous sommes un peuple, l'arbre de vie dont l'origine remonte aux racines du monde et dont les branches s'élèvent jusqu'aux cieux pour réconcilier le ciel et la terre à jamais. Amen.